Le débrief Ligue 1 de Rotten sans flamme, la nouveauté cette semaine, c'est qu'il est disponible dès le lundi en fin de matinée. Comme ça, vous avez l'analyse de Jérôme sur les matchs qui viennent de s'écouler. Et en plus, un avant-goût du programme qui vous attend ce soir 18h-20h sur RMC. Salut Jérôme, comment ça va ?
Ben, tout va bien mon Benoît. On se retrouve pour une magnifique semaine
Puis
une belle analyse de notre Ligue 1.
Exactement. Alors vous allez voir, ce sera un programme très Ligue 1 ce soir, mais on va quand même prendre le temps avec Jérôme d'analyser les résultats de ce week-end. Ça avait démarré vendredi soir, Jérôme, avec le PSG qui ouvrait cette journée face à Toulouse. Un peu d'expérimentation pour Luis Enrique, notamment Beraldo, qui était encore titulaire au milieu de terrain. Cette victoire 3-1, pas le contenu de l'année, en revanche, un but fantastique de la part d'Ousmane Dembélé.
Ouais. Bon, oui, on va retenir la forme de Dembélé. Voilà, il n'est pas ballon d'or pour rien, et on le sait. Il a eu un geste de classe, cette reprise de volée. Elle a rendu ce match un peu particulier dans tous les cas. Et après, pour parler collectivement, du moins, c'était pas une balade de santé, mais c'est un match sérieux du PSG. Voilà, ils n'ont pas tremblé, même si Toulouse est revenu à égalité après l'ouverture du score.
Après une boulette du gardien, surtout.
Ouais, mais ça, il faudra qu'on en parle aussi.
Ouais.
Parce que c'est sûr qu'il n'a pas forcément rassuré Safonov, mais derrière, le PSG, voilà, sans trop forcer, s'est imposé logiquement.
T'as aimé la air sortie de Safonov avant le corner ou pas?
Il y a eu tellement. En fait, sur le but de Toulouse, il y a la première erreur, en effet, là où il saute.
Fou.
Je sais pas ce qu'il va faire.
Qu'est-ce qu'il fait?
Et puis derrière, deuxième erreur sur le but. Bon, écoute, c'est bon. On connaît ses qualités, on connaît ses défauts aussi. C'est sûr que tout ce qui est appréciation. La trajectoire de la balle et surtout les sorties aériennes, c'est pas son point fort, quoi.
Ça, c'est sûr. Bon, on aura le temps d'en débattre dans Rotten sans flamme cette semaine. Samedi, on a eu des matchs avec beaucoup de buts. Ça a commencé par ce Strasbourg-Nice. 3-1 pour Strasbourg. Alors là, pitoyable prestation des Niçois, vraiment catastrophique. Strasbourg s'est baladé. Un but magnifique d'El Mourabé, d'ailleurs, lui aussi qui a mis un magnifique but. Donc le milieu de terrain marocain. L'hommage à Panicelli, victime d'une rupture des ligaments croisés. Tous les joueurs portaient le badge de meilleur buteur. Là, en revanche, la prestation niçoise, Jérôme, c'est vraiment catastrophique.
Ouais, bon, après Strasbourg, on sait que là-bas, à la Méno, quand ils sont dans une bonne dynamique, c'est sûr que le niveau, il s'élève. Et là, on a senti des Niçois complètement dépassés, du moins. Alors déjà, qu'on les sait en grande, grande difficulté, on l'a vu tout au long de l'année, hein, ils sont pas 15e au classement par hasard. Le problème, c'est que des erreurs individuelles, on a l'impression que ça manque par moments de combativité et d'envie. Et c'est ça qui est le plus grave. Parce que tu peux passer à côté, tu peux prendre des buts, tu peux perdre à Strasbourg, tu as le droit. Mais perdre comme ça, prendre 3 buts en une mi-temps, s'il y en avait eu 5 ou 6, il n'y avait rien à dire. Là, le mal, il est. On savait qu'il était. Ils étaient pas bien, les Niçois, mais là, le mal, il est profond, quoi. Donc,
eux, ils sont pas sauvés, hein. T'as raison.
Non.
Hein. Ils ont
4
points d'avance sur le barragiste Auxerre, et surtout une stat qui est folle pour un club comme Nice. Je regarde le goal average, Jérôme. Ils sont à -22.
Ah ouais. Non, mais...
Seuls Nantes et Metz font pire. Seul Metz fait pire, parce que Metz c'est -35. Donc même Nantes a un meilleur goal average que Nice.
Bah, c'est dire que ils vont avoir chaud jusqu'au bout et c'est surtout je te dis il y a des joueurs où tu les attends, du moins ils vivent une saison catastrophique, tu vois, pénible, mais il y a des joueurs qui peuvent pas être à ce niveau-là. Et moi je parle de Klose. Moi je veux bien que quand j'entends Klose nous expliquer que il vise encore la Coupe du Monde, mais je pense qu'il se voit pas jouer, quoi. Il voit pas aujourd'hui que c'est une des faiblesses de Nice, elle est là sur le côté droit, quoi, du moins sur la première mi-temps. Mais il a pris des bouillons, Dieu. Donc je stigmatise sur lui parce que il a quand même un statut particulier, Mais je pense que si ces joueurs-là, qui ont un statut particulier, n'arrivent pas à montrer la voie, et au moins dans l'agressivité, la concentration, être au niveau, je pense qu'en effet, ils peuvent vivre une fin de saison cauchemardesque.
Et la direction, d'ailleurs, a ciblé les joueurs. Maurice Cohen a dit « Certains doivent prendre leurs responsabilités, mais ça va dans le sens du message que tu es en train de faire passer, toi aussi. » On a eu 7 buts, Jérôme, à Leblay entre Brest et Rennes. C'était un match fou. Victoire 4-3 des Rennais. Beaucoup d'erreurs défensives. C'est quand même une belle opération pour Rennes, qui est 7e, mais qui revient à 3 points du podium. Surtout, il y a eu un événement, c'est qu'enfin, on a laissé les pénaltys à Esteban Lepaule. Ludo Blas a décidé de lui laisser les pénaltys. Donc, il en a inscrit 2, ce qui lui permet d'être co-meilleur buteur de Ligue 1 désormais. Mais sachant que Panicelli ne rejouera pas cette saison, il a une vraie chance de terminer meilleur buteur. Il y aura cette lutte avec Greenwood. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu t'es régalé?
Oui. Je l'ai vu. Bon, il y a eu des erreurs défensives de part et d'autre. C'est sûr que quand t'as 7 buts dans un match, il y a forcément des erreurs, mais ça a donné un match plaisant. Retournement de situation après une ouverture du score précoce de la part de Brest. Et puis après, Rennes, on a eu l'impression que dès qu'ils accéléraient, ils étaient en capacité, en effet, de faire mal. Moi, j'ai bien aimé le but surtout le match de Blas, qui revient à un bon niveau, qui retrouve la confiance avec Francaise, une confiance qu'il avait complètement mis de côté et perdu confiance, et même des temps de jeu avec l'ancien entraîneur Habib Bey. Là, c'est vrai que Hez l'a bien relancé. Et je trouve que, à travers lui, tu vois, les autres, ils suivent derrière, ils lâchent pas. Il fallait absolument faire tourner le compteur et gagner à Brest après un mauvais match nul contre Metz sur la journée d'avant. Et les points, ils sont rattrapés. Hein. Alors, ils sortent avec de la réussite, comme tu dis, parce qu'il y a quand même 2 pénaltys. On le voyait pas venir. Après le 3-3, on se disait, ça va finir sur un match nul.
Exactement.
Et puis, il y a cette erreur du Brestois, là. Qui donne ce penalty Lala qui se précipite un peu. Je crois que c'est Altamari
qui obtient
ce penalty. Donc une victoire importante à défaut d'être totalement dans la maîtrise, une victoire importante pour le Stade Rennais. Je pense que ça va embellir leur fin de saison au Rennais.
Alors, je mets un peu de côté le carton lillois face à Lens 3-0, parce qu'on va longuement en parler dans Rotten sans flamme ce soir.
Ouais.
Un peu la même chose avec ce Angers-Lyon qui était catastrophique, on n'a rien vu du tout, à 15h dimanche, parce qu'on parlera des Lyonnais aussi ce soir dans l'émission. On peut parler quand même de ce Paris FC qui est toujours invaincu sous Comboiré, un partout à Lorient. Ils concèdent l'ouverture du score, ils égalisent un but chanceux d'ailleurs du dos de Mounetzi. Mais cette dynamique folle parisienne, bravo Antoine, parce que là, il fait vraiment un sacré boulot à Paris. Hein.
Oui, il fait du bon boulot. Et puis c'est vrai qu'il y a ça l'image de ce qu'a amené Antoine, je crois que depuis qu'il est là, c'est qu'il y a du caractère dans cette équipe. Du moins, il refuse la défaite. Il y a quand même pas mal de choses à retenir, c'est-à-dire que par moment Lorient était pas loin de s'imposer, mais il s'accroche et ils auraient même pu le PFC s'imposer sur la fin de match parce qu'ils ont 2-3 occasions, même s'ils égalisent avec beaucoup de réussite et une erreur du gardien lorientais. Moi, c'est la force de caractère, tu vois, ça a complètement changé au PFC. On sentait une équipe pas forcément en danger, qui vivait une saison un peu tranquille, essayait à travers des qualités techniques de faire la différence, d'avoir la main mise sur les matchs. Mais ça manquait par moment de grinta, tu vois. Et je trouve que tous les choix, alors on aime ou on n'aime pas, mais les choix ont été
Il a lancé cohérents. Maxime Lopez, hein, qui était titulaire hier au milieu de terrain notamment. Donc ça veut dire que les portes ne sont pas fermées non plus quand il fait des choix, Antoine.
Ouais, moi je pense qu'il n'y a pas un délit de sale gueule à avoir. Alors on connaît les qualités d'Antoine, on connaît ses défauts aussi. On commence depuis autant d'années à cerner un peu les joueurs dans certaines zones qu'ils préfèrent. Ils préfèrent du poids, ils préfèrent du physique au milieu de terrain, surtout dans l'axe. Donc Max Lopez, on a subi les conséquences. Maintenant, je trouve que cette équipe, elle lâche pas. Il a des choix assez forts. Quand les mecs donnent pas satisfaction, il les met sur le banc, il les fait rentrer. Et puis ça lâche pas. Bon, bah écoute, ils vont finir l'année un peu tranquille maintenant parce que le maintien est assuré. Peut-être que continuer sur cette dynamique, essayer de pas perdre jusqu'à la fin de saison, ça serait quand même une performance.
Ouais.
Et puis après, il faudra reconstruire peut-être avec des joueurs différents, un recrutement un peu plus judicieux. Et voilà, mais le PFC, voilà, faire un match nul à Lorient dans ces conditions-là, c'est jamais simple. Lorient, c'est un peu le vent en poupe avec à domicile où ils sont souvent sur une bonne série. Belle performance ouais. Du PFC.
Le PFC qui paraît sauvé, hein, 32 points, il y a 9 points d'avance désormais sur le premier relégable des barragistes Auxerre. Donc là, c'est fait pour Paris. Le Havre-Auxerre un partout, Jérôme. Les Auxerrois avaient ouvert le score, ils ont concédé l'égalisation, mais tu avais l'impression que tout le monde était un peu content de ce point. Le Havre, parce que ça leur assure quasiment le maintien, et Auxerre, parce que finalement, ils restent en avance avec désormais 5 points d'avance toujours sur Nantes, dont on va parler dans un instant.
Ouais, après, je content, oui, parce que quand tu es à l'extérieur,
en tout cas, tu perds pas,
que tu prends un point, j'imagine que les Pélissier et les joueurs auxerrois peuvent se satisfaire au niveau comptable de ce point-là, mais je pense qu'il y avait mieux à faire encore à Auxerre. Ils ont ouvert le score, Sinayoko qui marque enfin un but. Et puis derrière, ils ont 2-3 occasions pour reprendre le score. Ils le font pas. Ça s'est joué à rien. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre à la fin. Mais autant pour les Havrais, je peux comprendre que ce point, quasiment... Alors, ils sont pas encore maintenus officiellement, mais ça sent bon quand même.
5 points d'avance sur le barragiste.
Ça sent bon, ouais, ça sent bon. Après, c'est vrai que Auxerre, quand tu vois que la prochaine journée, ils vont recevoir Nantes, il y avait moyen là d'aller prendre 3 points. Je trouve que sur le match, je trouve que la meilleure équipe était Auxerre.
Alors justement, Monaco-Marseille, on en parlera longuement dès 18h dans Rotten sans flamme sur RMC, mais ce Metz-Nantes 0-0, Nantes qui a vite été réduit à 10 après le rouge de Tilel Tati. L'homme du match est de loin, c'est Anto Lopez, donc, qui a sauvé les Canaries, qui auraient été assez catastrophiques et assez neutres offensivement. Ouais. Et puis aussi ce fait de jeu, Jérôme, tu vois, on en parlait la semaine dernière, mais ce hors-jeu du bout de l'orteil de Gauthier Hein dans le temps additionnel qui pouvait permettre à Metz d'aller chercher une victoire cruciale, voilà, c'est la règle bêtement appliquée et qui prive Metz d'un espoir.
C'est la règle. Alors après, qu'on soit d'accord ou pas, c'est vrai que c'est frustrant pour les Messins et pour Hein qui pensaient enfin donner un succès à Metz. Et peut-être que c'était avec cette victoire-là une façon encore une fois d'espérer pourquoi pas un miracle, même si ça paraît très compliqué de se maintenir du côté de Metz. Mais il y a eu ce fait de jeu à la fin, mais sur le match, oui. Alors après, peut-être que le fait que Nantes ait été réduit à 10 assez vite, ça a joué sur l'emprise sur le match, mais c'est vrai que Metz doit gagner ce match. Et c'est là qu'il y a inquiétant pour les hommes de Ali Lodzic, parce que autant on avait vu des bonnes choses sur le premier match et cette défaite contre Strasbourg qui était un peu frustrante à la Beaujoire, autant là, franchement, il se passe pas grand chose. Cette équipe, elle est mauvaise à Nantes, ça c'est sûr. Il y a des joueurs moyens. Et ils auraient dû perdre ce match. Donc, il reste un petit peu en vie. Il y a un match à 6 points, hein, le déplacement à Auxerre la semaine prochaine. Et c'est ce match-là qui va déterminer la fin de saison des Nantais. Parce que s'ils n'arrivent pas à gagner, même un match nul, je pense que ça va les enterrer. Surtout que la fin de saison de Nantes, elle est très, très compliquée en termes de calendrier.
Ça, c'est sûr.
Donc, moi, je ne vois pas les Nantais aller dépasser Auxerre, quoi.
Les carottes semblent cuites. Merci. Jérôme, 18h, Rotten sans flamme Jérôme Rotten, Christophe Dugarry, Eric Dimeco, le débrief de ce Monaco-Marseille. On parlera du RC Lens qui a dit adieu au titre. On parlera de Liverpool qui est très inquiétant avant d'affronter Paris en Ligue des Champions. Le niveau de la Ligue 1 avec ce resserrement dans la course à la Ligue des Champions. Et Rotten, sélectionneur, bien évidemment. Oh, la liste de Jérôme Rotten, 19h30. Et le débat qui en découlera sur Dembélé et ses responsabilités en équipe de France. Merci Jérôme.
Allez, merci. À tout à l'heure.